Imaginons un scénario très moderne, presque banal en fait. Quelqu'un donne sa démission pour fuir un environnement de travail incroyablement toxique.
Ah oui, la fameuse fuite en avant. On a tous vu ça.
Exactement. Cette personne déménage à l'autre bout du pays, change de numéro, coupe les ponts. Sur le papier, c'est la libération totale.
C'est le nouveau départ parfait, en théorie.
Voilà, en théorie. Mais 3 mois plus tard, dans un tout nouveau bureau, avec des gens charmants, cette même personne se réveille avec la même angoisse paralysante.
Les mêmes mécanismes de défense destructeurs, j'imagine.
Ben oui, et la même incapacité à faire confiance. En gros, la géographie a changé, les murs de la prison ont disparu, mais le véritable bourreau, lui, a fait le voyage dans les bagages.
C'est une observation psychologique redoutable. On réalise soudainement que s'échapper d'un lieu physique, c'est finalement la partie la plus simple de l'équation. Le véritable cauchemar commence quand on comprend que le problème fondamental n'est pas extérieur, mais profondément ancré à l'intérieur.
Et cette prise de conscience douloureuse, c'est très exactement le pivot central de notre exploration d'aujourd'hui. Je suis ravie de plonger avec vous dans les notes d'enseignement du docteur John Oswalt, un document fascinant qui analyse une section très spécifique du livre d'Ésaïe intitulé « La grâce, motif et moyen de la servitude ».
C'est un texte dense, très riche.
Oui, et notre mission ici n'est pas de faire un simple survol historique. L'objectif est de décortiquer une transition intellectuelle et spirituelle absolument vertigineuse.
Une transition qui bouleverse d'ailleurs toute la logique narrative du texte jusqu'à ce point précis.
C'est ça. Pour bien situer les choses, dans toute la première moitié de ce texte, disons les chapitres 41 à 48, le seul et unique mot d'ordre était l'évasion, fuir l'Empire de Babylone.
L'oppresseur physique, la puissance militaire étrangère.
Exactement, les murs physiques de l'exil. Mais soudainement, au beau milieu du récit, à partir du chapitre 49, le mot Babylone disparaît totalement. Il n'est plus jamais mentionné.
Le tyran géopolitique s'évapore complètement des textes.
Et le projecteur se braque brutalement sur une menace beaucoup plus insidieuse. L'aliénation humaine, la rupture intérieure. Ce que le texte appelle le péché.
Et il faut bien comprendre qu'il y a une logique philosophique implacable derrière ce changement de cap dans l'analyse de l'auteur. Si l'on accepte l'idée que notre univers n'est pas un chaos aléatoire, mais qu'il est régi par des principes stricts de cause à effet, alors une vérité dérangeante émerge. Le créateur ne peut pas simplement balayer le mal sous le tapis.
Il ne peut pas juste faire semblant de rien.
C'est impossible selon cette vision. Il ne peut pas ouvrir la porte de Babylone, donner une petite tape dans le dos des exilés et dire « Allez, oublions tout ça, repartez à zéro ». Si la loi morale de cause à effet est suspendue par pure complaisance, mais c'est la structure même de la justice cosmique qui s'effondre.
Donc le sauvetage logistique, c'était presque un détail.
Voilà, le vrai problème, la vraie question que soulève l'auteur, c'est comment réparer une nature humaine fracturée sans violer la justice de l'univers.
D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Si le dilemme devient purement spirituel, la question immédiate qui me vient à l'esprit, c'est l'identité du sauveteur. Qui a les épaules pour accomplir une telle réhabilitation?
C'est là que le texte introduit un personnage mystérieux désigné sous le terme de serviteur.
Oui, et on l'appelle explicitement Israël. Mais honnêtement, en lisant les sources, j'ai eu un vrai blocage logique.
Ah, un blocage tout à fait justifié si l'on regarde le contexte précédent. Je suis bien d'accord.
Justement. Un peu plus tôt dans le texte, cette même nation d'Israël est décrite avec des mots accablants. On parle d'un peuple sourd, aveugle, pillé, pris au piège dans des trous et enfermé dans des prisons. Alors, à moins de confier une opération à cœur ouvert à un chirurgien qui est lui-même dans le coma, je ne vois pas comment une nation aveugle pourrait soudainement s'improviser libérateur spirituel du monde.
Eh bien, elle ne le peut pas, c'est la conclusion évidente. Et c'est là que l'analyse du docteur Oswald devient lumineuse. Il démontre que ce nouveau serviteur qui entre en scène ne peut absolument pas être la nation historique, qui est défaillante et exilée. Le texte fait émerger ce qu'il nomme l'Israël idéal.
L'idéal, d'accord. Donc c'est la figure du Messie.
Exactement. Ce personnage ne vient pas seulement aider le peuple, il vient être ce que le peuple a tragiquement échoué à être. Il prend leur place, leur nom, mais avec une perfection absolue.
Et la poésie utilisée pour décrire cette perfection est d'ailleurs assez martiale, mais d'une manière très subtile. Le Messie dit que sa bouche est comme une épée tranchante et qu'il est une flèche polie cachée dans le carquois divin.
L'image de la flèche polie est très révélatrice.
Oui, je suis fascinée par cette métaphore. Une flèche ne se polie pas toute seule. Cela implique un travail minutieux, dans l'ombre, une préparation longue et secrète pour être finalement sortie du carquois au moment stratégique parfait.
Et sa cible dépasse de loin les frontières de l'exil babylonien.
Tout à fait. Le texte affirme que sauver uniquement les tribus d'Israël serait, je cite, « trop peu ». Sa mission véritable, c'est d'être une lumière pour toutes les nations. Mais comment la nature, l'environnement physique, réagit-il à l'arrivée de ce fameux Messie ?
Ce qui est fascinant ici, c'est justement la réaction de l'univers physique. Si l'on remonte aux toutes premières pages du livre d'Ésaïe, la nature adopte une posture extrêmement hostile. Les cieux et la terre sont littéralement convoqués par Dieu pour agir en tant que grand jury cosmique. Ils sont appelés à la barre pour témoigner de la culpabilité écrasante de l'humanité.
Un peu comme si l'environnement lui-même nous regardait avec dégoût et disait « je témoigne contre eux ». C'est terrifiant comme allégorie.
C'est terrifiant, mais soudainement, au chapitre 49, face à l'arrivée de ce serviteur idéal, le rôle de la nature s'inverse du tout au tout. Les montagnes éclatent en chants d'allégresse, les cieux se réjouissent, la terre exulte. Le docteur Oswald fait ici un pont magistral avec la théologie de l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains.
Ah oui, quand Paul parle de la création qui soupire.
C'est ça. Paul explique que la création entière a été assujettie à la futilité, qu'elle gémit comme dans les douleurs de l'accouchement, à cause de la corruption humaine. L'environnement physique est la victime collatérale de notre faillite morale. Alors quand la nature voit enfin s'avancer celui qui possède la clé de la restauration intérieure, elle explose de joie, car elle sait que sa propre guérison est imminente.
C'est une image grandiose. On imagine une symphonie cosmique où la création entière respire enfin. On s'attendrait logiquement à ce que le peuple en exil, en entendant cette promesse incroyable, rejoigne la chorale des montagnes, non ?
Eh bien, pas vraiment non.
Pas du tout même. On frappe ici un mur de cynisme assez spectaculaire. La réaction immédiate des exilés n'est pas la louange, c'est l'amertume. Ils gémissent et déclarent « Le Seigneur m'a abandonné, il m'a oublié ». Et je dois avouer que ma première réaction en lisant cela a été l'agacement. Le Créateur vient de promettre la guérison du cosmos et eux, ils se comportent comme des adolescents boudeurs.
Je comprends cette réaction, mais il faut faire preuve d'un peu de compassion historique ici. N'oublions pas que nous parlons de gens qui sont en exil à Babylone depuis environ 45 ans. C'est une génération et demie qui a grandi loin de chez elle. Leur angoisse n'est pas un simple caprice philosophique.
C'est une terreur existentielle, très pragmatique pour eux.
Exactement. Ils regardent leurs enfants grandir, adopter la langue babylonienne, les coutumes babyloniennes, et ils sont saisis par l'effroi absolu de l'assimilation. Ils se disent « nous allons disparaître, notre identité va s'évaporer dans les marges de l'histoire ».
C'est vrai que la réalité de l'époque était brutale. Une nation conquise finissait invariablement par être absorbée et effacée par l'empire dominant.
C'est précisément à cette terreur de l'effacement que le texte montre Dieu répondre, non pas avec un tonnerre lointain, mais avec une douceur domestique bouleversante. Il demande « Une mère allaitante peut-elle oublier son bébé ?»
C'est très intime.
Très intime. Et pour appuyer le propos, il ajoute cette phrase célèbre « Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains ». Le terme hébreu implique une inscription permanente, quelque chose de l'ordre du tatouage. Ce n'est pas une note griffonnée sur un bout de parchemin qu'on peut perdre. C'est une marque indélébile liée directement à l'action et au mouvement des mains divines.
Et il promet non seulement qu'ils ne disparaîtront pas, mais que le flux des retours sera si massif que la terre sera trop étroite pour les accueillir. À ce propos, les sources font remonter une observation historique particulièrement troublante concernant cette promesse de préservation, et je précise que c'est bien l'argument de l'auteur ici.
Oui. Le docteur Oswald soulève un point qui dépasse le simple cadre théologique pour entrer dans le domaine de l'anomalie historique. Selon son analyse, la survie du peuple juif qui a réussi à maintenir une identité cohérente malgré deux millénaires de persécutions acharnées défie les modèles sociologiques habituels.
Même confronté à des tentatives d'éradication systématique, comme celle du régime hitlérien ?
Exactement. L'auteur souligne que cette persistance à travers les siècles échappe à une explication purement rationnelle. Le texte qu'il étudie avance que cette préservation inouïe serait la manifestation tangible de ce fameux « tatouage sur les mains divines ». C'est la perspective présentée par la source.
C'est une perspective qui donne assurément du poids au texte. Mais cela m'amène à une interrogation plus profonde. Imaginons que la survie physique soit garantie. Pourquoi se donner tant de mal ? Quel est le but ultime de toute cette orchestration minutieuse ? Si ce n'est pas juste pour éviter qu'une culture ne s'éteigne, quelle est la finalité ?
Si l'on relie cela au tableau d'ensemble de l'œuvre d'Ésaïe, la finalité n'est ni la survie démographique, ni même un simple acquittement juridique. Le véritable but est déclaré sans aucune ambiguïté. « Toute chair saura que je suis Yahweh ».
Ah, donc l'objectif, c'est la connaissance.
L'objectif ultime, c'est la connaissance intime. C'est la relation. Le docteur Oswald dresse d'ailleurs un parallèle très fort avec l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens. Paul y énumère son impressionnant pedigree religieux et social, un statut que n'importe qui lui envierait à l'époque.
Et il choisit de jeter tout ça aux ordures. Le mot grec utilisé est d'ailleurs assez vulgaire. Il parle littéralement de fumier.
C'est ça. Il considère que tout avantage humain, toute sécurité de statut, ce n'est que du fumier face au privilège d'une seule chose, connaître le Christ. Et pas seulement le connaître dans la théorie ou dans le confort, mais le connaître dans la communion de ses souffrances. L'idée ici, c'est que la promesse divine n'est pas de fournir un parapluie pour éviter les tempêtes, mais d'offrir une intimité avec celui qui traverse la tempête avec nous.
Cette invitation à l'intimité est magnifique. Mais la nature humaine étant ce qu'elle est, la peur d'être oubliée ne se dissipe pas si facilement. Elle mute en fait, elle se transforme en colère.
Oui, l'amertume refait surface très vite.
Au chapitre 50, les exilés en arrivent à intenter un véritable procès d'intention à Dieu. Ils se posent en victime et l'accusent de les avoir divorcés sans raison valable, ou pire, de les avoir vendus à des créanciers cosmiques pour éponger on ne sait quelle dette divine.
C'est genre le réflexe humain par excellence. Quand les choses tournent mal, on cherche à incriminer le système, le destin ou le créateur.
Et la réponse de Dieu face à cette accusation prend la forme d'un défi légal teinté d'une ironie assez tranchante. Il s'adresse à eux dans leur propre vocabulaire juridique en demandant « Très bien, où est le certificat de divorce? Sortez-le. À quel créancier vous ai-je prétendument vendu ?»
Le silence qui suit cette question est assourdissant. Car la vérité, c'est qu'il n'y a pas de certificat. Ils n'ont pas été victimes d'une transaction obscure ou d'un abandon capricieux. Le texte révèle brutalement qu'ils se sont vendus eux-mêmes par leurs propres iniquités.
Ils sont les architectes de leur propre captivité.
C'est une confrontation difficile mais nécessaire. En démontrant qu'aucune force supérieure ne l'a contrainte à les exiler, le Créateur établit un principe fondamental. Puisque c'est lui qui a souverainement et librement appliqué la sentence de justice, eh bien, il possède la liberté absolue et inconditionnelle de les racheter. Son pouvoir de salut n'est entravé par aucun créancier.
C'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que c'est le moment précis où le fameux serviteur idéal refait son apparition pour accomplir ce rachat. Mais la méthode employée prend tout le monde à contre-pied.
On attend un guerrier fulgurant, c'est clair.
Oui, un libérateur puissant. Et on découvre un être qui subit une violence inouïe, avec une soumission déconcertante. Le texte décrit qu'on frappe son dos, qu'on arrache sa barbe, qu'on lui crache au visage. C'est l'humiliation absolue, une injustice flagrante. Et pourtant, face à cette brutalité, son visage devient dur comme un roc, littéralement comme du silex dans le texte.
Il n'y a aucune rétraction, aucune fuite. Il endure dans une confiance aveugle. Le texte établit même une équivalence choquante pour la théologie de l'époque. Obéir à la voix de ce serviteur humilié, c'est l'équivalent direct de craindre l'Éternel.
Et cela nous amène à l'une des métaphores les plus psychologiquement pertinentes de toute notre source, à la fin du chapitre 50. Le texte s'abaresse à ceux qui marchent dans l'obscurité totale, dans l'injustice ou la douleur, et met en garde contre une tentation universelle, celle d'allumer son propre feu.
Une image très parlante.
N'est-ce pas? Quand on est dans le noir, le réflexe de panique est de gratter une allumette à tout prix. Dans notre contexte moderne, allumer son propre feu, c'est utiliser nos propres combines pour forcer le destin. C'est manipuler une situation au travail, utiliser son argent pour acheter une fausse sécurité, ou céder au fantasme de la vengeance pour réparer une injustice.
C'est la tentative désespérée de fabriquer notre propre lumière, parce qu'on refuse d'attendre celle de Dieu. Mais l'avertissement du texte est glacial. Ceux qui s'entourent de leurs propres étincelles finiront par se coucher dans les tourments. La lumière qu'ils ont fabriquée finira par les consumer.
Le serviteur, lui, fait exactement l'inverse. Alors qu'il subit la pire des injustices, il refuse catégoriquement d'allumer le feu de la vengeance ou de l'auto-justification. Il encaisse, il reste dans l'obscurité et fait confiance à la justice divine.
C'est une maîtrise de soi qui dépasse complètement l'entendement humain. Et c'est ici qu'intervient le concept fondamental du bras de l'Éternel, qui symbolise la puissance salvatrice.
On imagine souvent ce bras de l'Éternel comme une force de frappe destructrice, non ?
Tout à fait. l'instinct humain voudrait que la puissance suprême se manifeste par un feu foudroyant qui balaie les ennemis en un instant. Mais le texte nous enseigne que la véritable toute-puissance se révèle dans la capacité d'absorber la violence et la haine sans jamais les reproduire. Le serviteur brise le cycle infini de la violence en l'absorbant en lui-même.
Cette démonstration de puissance silencieuse nous amène à un tournant décisif. Face à un serviteur prêt à subir une telle épreuve, comment l'humanité doit-elle réagir? Le chapitre 51 lance un appel au réveil, adressé à une minorité d'exilés, ceux qui poursuivent la droiture.
Ce détail est crucial. Ce n'est pas pour ceux qui sont confortablement installés dans le cynisme, mais pour ceux qui ont encore faim de justice.
Le texte les encourage à regarder leur ancêtre Abraham pour puiser l'espoir. Il promet que même si la terre s'use comme un vieux vêtement, son salut restera éternel. Mais l'impatience humaine refait surface. La minorité exhorte Dieu à l'action spectaculaire. Il s'écrie « Réveille-toi, bras de l'Éternel ».
Il réclame un miracle retentissant, comme à la mer Rouge, un vrai spectacle hollywoodien de libération.
Et la réponse divine est un renversement spectaculaire. En substance, le texte dit « Je suis parfaitement réveillé, c'est Jérusalem qui dort debout, c'est vous qui devez vous réveiller ». Et pour illustrer cet engourdissement, on introduit l'image glaçante de la coupe. Jérusalem a bu la coupe de la colère, la coupe du vertige.
C'est une métaphore puissante pour décrire le poids écrasant des conséquences morales de leur propre faute. Ils sont ivres de leur propre ruine.
Et là, Dieu fait une promesse étonnante. Il va enlever cette coupe de leurs mains. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? Parce que je me retrouve face à un vrai paradoxe logique par rapport à nos prémices du début.
Lequel?
Eh bien, nous avons fermement établi que l'univers exige le respect de la loi de cause à effet. La justice ne peut pas simplement fermer les yeux. Alors comment Dieu peut-il soudainement arracher cette coupe de punition des mains de Jérusalem sans violer sa propre justice? Si le peuple méritait de boire cette coupe, la justice cosmique exige qu'elle soit bue. On ne peut pas juste la jeter dans un caniveau.
Cela soulève une question importante, et c'est véritablement l'apogée de l'analyse du Dr Oswald. Vous pointez du doigt l'exigence incontournable de la justice. La dette morale existe. La coupe du vertige, remplie des trahisons et des rébellions de l'humanité, ne peut pas s'évaporer par magie.
Donc, comment on résout ce casse-tête?
La seule et unique manière pour que Dieu puisse légitimement retirer cette coupe des mains de l'humanité condamnée, eh bien, c'est de l'arracher pour la porter lui-même à ses propres lèvres et la vider jusqu'à la lie.
Ah, le serviteur!
Précisément. L'existence du serviteur souffrant n'a de sens que dans cette logique de substitution totale. Il ne vient pas seulement nous enseigner comment vivre, il vient boire ce que nous aurions dû boire. Le Dr Oswald tisse ici le lien définitif avec le Nouveau Testament en nous transportant dans l'obscurité du jardin de Gethsémané.
Quand Jésus prie avant son arrestation.
Exactement. Quelle est sa supplique angoissée à cet instant? Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Ce n'est pas une métaphore vague. C'est très exactement la coupe du vertige dont parle Ésaïe. Et le serviteur idéal, dans un acte d'obéissance terrifiant, finit par l'accepter.
Il absorbe le poison à la croix.
C'est ça.
Pour que nous soyons libérés de cette ivresse mortelle et que nous puissions enfin devenir les serviteurs lucides que nous étions destinés à être.
C'est un mécanisme de grâce absolument stupéfiant. Cela ferme la boucle de notre réflexion de manière magistrale. De l'impossibilité de s'extraire de nos propres prisons mentales jusqu'à l'intervention de ce serviteur qui absorbe notre sentence. L'implication concrète pour quiconque écoute cette exploration aujourd'hui est d'une grande clarté.
Oui. Face au chaos d'un monde en crise, la tentation sera toujours d'allumer nos propres petits feux.
Exactement.
De courir dans tous les sens pour allumer fiévreusement nos propres feux d'artifice humain ou de céder au cynisme. Mais le texte nous supplie de stopper cette agitation. Il nous invite à une confiance radicale en celui qui a déjà englouti l'obscurité à notre place.
Il s'agit d'abandonner l'illusion de notre propre contrôle pour nous reposer entièrement sur cette substitution opérée par le serviteur.
Et pour clore notre plongée du jour, j'aimerais proposer une dernière pensée, un peu provocatrice, qui émerge de l'intersection entre le texte de Philippiens et le chapitre 51 d'Ésaïe qu'on vient d'aborder.
Je vous écoute.
D'un côté, nous avons vu que l'apôtre Paul désirait si intensément connaître le serviteur, dans la communion de ses souffrances, sachant que la résurrection se trouve de l'autre côté. De l'autre côté, Ésaïe nous avertit froidement que la terre actuelle, avec ses empires, ses carrières et ses systèmes de réussite, s'usera et se déchirera comme un vieux vêtement.
Mais que la relation forgée avec le serviteur, elle, demeurera.
Exactement. Alors voici la réflexion que je laisse pour quiconque nous écoute. Si l'univers physique tout entier, avec tout ce qu'on s'épuise à y bâtir, n'est finalement qu'un décor éphémère appelé à se dissiper comme de la fumée, et que seule notre intimité avec ce serviteur survit au naufrage, quelle proportion de notre énergie quotidienne passons-nous obstinément à essayer de recoudre ce vieux vêtement terrestre voué à la destruction, plutôt qu'à embrasser la réalité éternelle de celui qui s'est avancé seul dans le noir pour vider la coupe de notre vertige ?
C'était une question qui remet très sérieusement en perspective ce que nous considérons comme urgent dans nos vies, c'est certain.
Merci d'avoir suivi cette plongée exigeante au cœur des textes anciens. L'exploration ne s'arrête jamais vraiment, et l'invitation à creuser ces concepts par soi-même reste grande ouverte. À très bientôt pour une nouvelle réflexion.